France Info.
13, 14 degrés, de 19 à 20 dans le sud et près de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'au contrefort du Massif central, très souvent 20 degrés et un peu plus, jusqu'à 24, certainement près des Pyrénées vers le Pays Basque.
Oui, le printemps est déjà là. Merci beaucoup Christine Peña et merci à tous d'écouter France Info. Il est 5 heures. Et à la une de ce 17 mars, des listes qui fusionnent et d'autres non après le premier tour des municipales à Paris. Pierre-Yves Bournazel se retire au profit de Rachida Dati. À Lyon, la gauche s'unit. Pas à Marseille, on va faire un point complet dans ce journal. À la une aussi, les délais pour voir un médecin qui s'allongent encore. Reportage à venir. Et puis le PSG va-t-il décrocher sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions? Ça se décide ce soir et c'est sur la pelouse de Chelsea. Il n'y a donc plus que 4 listes à Paris pour le second tour de dimanche. Pierre-Yves Bournazel, du parti Horizon, soutenu aussi par Renaissance, a finalement accepté et annoncé de fusionner la fusion de sa liste avec celle de Rachida Dati, qui est arrivée deuxième. Jusqu'à maintenant, il excluait cette fusion et il ne sera d'ailleurs pas présent sur la liste finale. Il annonce même son retrait de la vie politique après 18 ans de mandat comme conseiller municipal de la capitale. Alors une question se pose désormais, que vont faire ses électeurs dans son fief du 18e arrondissement? Thomas Vinclair, son ralliement en tout cas ne plaît pas à tout le monde.
Sur son téléphone, Grégory découvre la nouvelle.
Pour moi, eh bien, ça s'arrête là.
Choqué, déçu, trahi. Parce que moi, je vais voter pour lui contre Dati.
Alors, pour dimanche, son choix est fait.
Ça va être Grégoire, par élimination.
Même décision pour Fatima.
Je voterai jamais pour Rachida Dati. Mais jamais.
Elle désigne un responsable, Édouard Philippe, le président du parti Horizon, auteur, selon elle, de pression en coulisses.
C'est à cause de lui, et moi, perso, j'aurais aimé voter pour Édouard Philippe pour la présidentielle, mais avec le coup là qu'il fait à Bournazel, c'est un gag.
À l'inverse, cette fidèle salue le choix courageux du désormais ex-candidat Bournazel de ne pas apparaître sur la liste Dati.
Ça c'est bien, il est droit dans ses bottes. Parce que les gens qui votent pour Bournazel veulent pas voter pour Rachida Dati.
Dans son fief du 18e arrondissement, Pierre-Yves Bournazel laisse tout de même un vide pour Antoine.
Moi c'est l'attachement au 18e qui m'intéressait. C'est pas l'attachement à Rachida Dati. Parce qu'elle a trop de casseroles clinquantes.
Il pense notamment à ce procès pour corruption qui attend l'ancienne ministre dans 6 mois. Alors parmi tous ses électeurs rencontrés, seul Philippe glissera dimanche un bulletin Dati.
Ce que je reconnais à Rachida Dati, c'est son dynamisme dans la gestion des sujets des Parisiens.
Plus qu'un succès de Rachida Dati, Philippe souhaite surtout l'alternance après 25 années avec la gauche à la tête de la mairie de Paris.
France Info, reportage dans la capitale signé Thomas Vinclair. Des fusions, beaucoup ont été annoncées à gauche hier à Toulouse, Nantes, Limoges, Avignon, Brest ou encore Clermont-Ferrand. Les socialistes vont s'allier aux insoumis pour le second tour. À Lyon, le maire écologiste sortant, Grégory Doucet, qui est arrivé très légèrement en tête au premier tour, acte sa fusion avec la candidate LFI, Christophe Vincent.
Une nuit et une journée à négocier et au final, un accord qui porte uniquement sur la liste. 10% des suffrages pour LFI donnent 10% des places éligibles. Précision d'Anaïs Belouassa-Chérifi, la candidate insoumise.
Une fusion technique, et il n'y a pas de garantie, c'est simplement le respect du scrutin, donc du nombre d'électeurs. Il n'y a ni adjoint, ni fusion, ce qu'on appelle programmatique. Nous le croyons fortement que Jean-Michel Aulas est un danger pour notre ville. Notre ville doit rester à gauche, doit avoir toujours ses valeurs d'humanisme et nous y parviendrons, je l'espère, dimanche prochain.
Dès l'annonce de l'accord, Jean-Michel Aulas a vivement réagi.
Je suis vraiment mécontent. J'ai dit que c'était l'accord de la honte, mais c'est pire que ça, parce que tout ce que prône LFI a été dénoncé par Doucet pendant tout son programme dernier. Les policiers désarmés, la vidéosurveillance, l'antisémitisme de Mélenchon. Et j'espère que les Lyonnais vont faire en sorte de sanctionner tout ça dès dimanche prochain.
À cause de l'alliance, Jean-Michel Aulas ne voulait plus débattre demain soir avec Grégory Doucet, mais il n'a pas tranché. « Je n'ai pas peur de l'affronter », dit-il. « Au contraire, je suis très motivé. »
À Marseille, en revanche, pas d'alliance à gauche. Benoît Payan, le maire sortant, fera sans les insoumis. Il a déjà déposé d'ailleurs sa liste en préfecture. Et puis à droite, la liste LR de Martine Vassal ne s'alliera pas à celle du RN. Franck Alizio, elle compte bien se maintenir dimanche. Hélène Terzian.
Un front républicain sans le dire. Officiellement, en décidant de se maintenir, Martine Vassal veut continuer à défendre ses idées dans le match marseillais. Officieusement, il s'agit de disperser les voix, de capter un électorat qui serait tenté par le vote RN. Car si Martine Vassal s'était retirée, ses électeurs n'iraient pas tous voter Benoît Payan, reconnaît une ministre. L'objectif, c'est donc de faire baisser le score du candidat RN Franck Alizio et comprendre, tant pis, si Benoît Payan l'emporte. Au passage, Martine Vassal restera conseillère municipale avec l'ambition de maintenir la droite et le centre dans la majorité de la métropole qu'elle préside. Et tout cela fait les bonnes affaires de Benoît Payan, lui qui s'est bien gardé d'appeler au désistement de sa rivale. En faisant le pari de partir seul, sans LFI, Benoît Payan met la responsabilité sur Sébastien Delogu. L'insoumis doit décider d'ici ce soir s'il se maintient, au risque peut-être de faire gagner le RN.
Hélène Terzian du service politique de France Info. Il est 5h05, de nouvelles frappe ce matin sur Beyrouth et dans le sud du Liban, annonce Israël, qui vise le Hezbollah pro-iranien, un conflit qui a déjà poussé depuis son redémarrage le déplacement d'1 million de Libanais. L'État hébreu qui mène aussi ces dernières heures une nouvelle vague de frappe aussi à grande échelle sur Téhéran, la capitale de l'Iran. Et depuis le déclenchement de cette guerre par Israël et les États-Unis, eh bien ce sont 200 soldats américains qui ont été blessés par la riposte iranienne sur les bases des États-Unis dans la région. Ce bilan est fourni par le Pentagone qui ajoute que 180 de ces soldats ont déjà repris leur mission. Ce n'est pas nouveau, loin de là, mais c'est de pire en pire. France Info et ICI révèlent ce matin le baromètre de la Fédération hospitalière de France sur les délais d'attente pour voir un médecin à l'aide d'un sondage Ipsos. Et la région Pays de la Loire est l'une des plus mal loties. Il faut y compter 14 semaines pour voir un ophtalmo, 17 pour voir un cardiologue et même 22 pour rencontrer un dermatologue. Dans la Sarthe, au Mans, Augustin Orly, on prend son mal en patience.
Quel spécialiste décroche la palme du pire temps d'attente pour un rendez-vous? Jacqueline, bon, celle de 90 ans, n'arrive pas à choisir, alors elle nous partage son top 3.
Dentiste, ophtalmo, dermato. Le dentiste, oui, c'est l'ordre de 6 mois.
6 mois, ça reste toujours mieux que ce qu'a vécu Léa avec son orthodontiste.
On a attendu 24 mois pour mon fils qui a 16 ans. C'était pour mettre un appareil.
Pour cette maman de Bessé-sur-Bray, dans le Sud-Sarthe, ces 2 ans d'attente ont eu des conséquences sur la santé de son fils.
Et il a pris 2 ans de retard. Maintenant, on y va tous les 6 mois pour remettre les dents de niveau, quoi.
Ces temps d'attente pour obtenir un rendez-vous ne cessent d'augmenter depuis 2019. Plus 2 mois en moyenne, notamment pour les cardiologues ou les dermatologues. Pascal, 62 ans, lunettes de soleil d'aviateur et chaussures Richelieu, a dû employer les grands moyens il y a quelques mois.
Ça m'est arrivé d'aller consulter sur Paris pour une simple échographie. C'est vrai que tous n'ont pas cette chance que moi je peux avoir.
D'avoir les moyens d'aller jusque Paris.
On voit ce qu'il arrive, c'est que donc la sélection se fait par l'argent.
À l'inverse de Pascal, presque 60% des Français ont déjà renoncé à au moins un acte de soins dans les 5 dernières années à cause des délais de rendez-vous, selon le baromètre de la Fédération hospitalière.
Un reportage ici même signé Augustin Ourlier pour France Info. Du football ce soir, le Paris Saint-Germain n'est plus qu'à un match d'une nouvelle qualification en quart de finale de la Ligue des Champions. Large vainqueur au match aller, 5-2 face à Chelsea. Le PSG doit donc, excusez-moi l'expression, finir le travail ce soir à Londres. Alors Paris a certes de la marge, mais attention à l'excès de confiance, prévient l'entraîneur parisien Luis Enrique.
C'est toujours différent parce que c'est une équipe qui est dehors de la compétition. Dans ce moment, ce sont des matchs différents, très compliqués. Il faut savoir et contrôler les matchs, mais c'est que c'est notre objectif, c'est de chercher à gagner les matchs. Mais on aura des moments de souffrance, bien sûr.
L'entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, le coup d'envoi de ce match Chelsea-PSG, c'est à 21h et vous pourrez le suivre évidemment sur France Info. Et puis M6 change son programme ce soir. Rediffusion des films Brice de Nice en hommage à Bruno Salomon, l'acteur mort ce week-end à l'âge de 55 ans et qui incarnait Igor Dosgor, Osegor comme on devrait dire, oui, Christine Peña. Bravo. Bruno Salomon qui avait commencé sur M6 dans Graines de Star. On l'avait aussi vu dans Caméra Café et Kaamelott, deux autres séries emblématiques. politique de la CIS. Christine Peña, ce qui nous attend aujourd'hui, c'est une journée printanière.
Mais oui, on se débarrasse des nuages, ça y est. Alors, il en reste un peu, c'est vrai, près de la frontière allemande surtout. C'est encore assez bouché, mais le ciel devrait se morceler dans l'après-midi. Sinon, vous avez un peu de vent sur la pointe bretonne qui se maintient, alors que le Mistral en basse vallée du Rhône va s'essouffler. Et ces températures qui grimpent alors cet après-midi, hein, surtout 14 à Strasbourg, mais 15 à Dijon, 16 à Lyon, 17 à Cherbourg, au Havre, à Rennes, à Paris, 17 degrés, Grenoble, Clermont-Ferrand et Montélimar également, 19 à Marseille, Nice et Bastia, jusqu'à 20 à Bordeaux comme à Montpellier, et 23 où ça ?
À Toulon,
à Baba,
à Yoyo,
à Bayonne.
Ah bah voilà, c'était l'un ou c'était l'autre. Bon, si je comprends bien, aujourd'hui, si on oublie le manteau, c'est pas grave, c'est peut-être même mieux. Hein.
Pour cet après-midi, oui, ce matin, attention, il fait frisquer quand même.
D'accord, faites attention. Merci pour vos conseils, Christine Peña. Il est 5h10.
France Info, première plateforme d'actualité, source Médiamétrie Net Ratings.
Chaque mois, vous êtes 24 millions à vous informer sur franceinfo.fr et l'appli France Info.
Merci pour votre confiance.
Une info fiable et vérifiée.
France Info, première plateforme d'actualité.
À venir sur France Info, les imprimeries qui tournent à plein régime pour fabriquer des millions de bulletins de vote. Reportage dans 10 minutes. Tout doit être prêt avant le second tour des municipales. C'est dimanche.
France Info. 5h-6h. William Gecosta.
Et à Paris, justement, il faut un nouveau bulletin à droite et au centre. Pierre-Yves Bournazel, soutenu par Renaissance et Horizon au premier tour, arrivé quatrième, a finalement accepté de fusionner sa liste pour le second tour avec celle de Rachida Dati, qui est, elle, arrivée deuxième derrière Emmanuel Grégoire, le socialiste. Pierre-Yves Bournazel, qui toutefois ne fera pas campagne pour elle, il l'a annoncé hier soir aux 20h de France 2.
Bon, d'abord, je voudrais remercier les près de 100 000 Parisiens qui m'ont fait confiance au premier tour et qui ont souhaité le changement, qui ont souhaité défendre des valeurs, et je les ai défendues dans cette campagne. Et hier soir, j'ai discuté avec Rachida Dati, qui est notre candidate du changement et de l'alternance à Paris, et nous avons discuté aussi aujourd'hui. Et pour moi, ce qui était important, c'est les valeurs. Les valeurs, c'est le refus de l'extrémisme politique et de l'extrême droite à Paris et du danger de Manak Nafo. Je vois que l'extrême gauche progresse aussi dans le pays. Je vois des alliances entre le Parti Socialiste et LFI dans certaines villes. Et moi, je veux être clair sur les valeurs. Et Rachida Dati s'est engagée sur les valeurs et sur la lutte contre l'extrémisme politique. Elle s'est engagée sur le projet, notamment sur le périscolaire qui me tient à cœur quand je vois les violences contre les enfants. Et donc, nous avons, j'ai le plaisir de vous annoncer ce soir, que nous avons décidé de fusionner nos listes. Pourquoi ? Parce qu'une majorité de Parisiens attend le changement et l'alternance. Et que, dans mon équipe, une majorité de colistiers et tous les partis qui me soutiennent souhaiter ce changement et cette alternance et donc cette fusion.
Donc vous fusionnez avec Rachida Dati et pourtant il y a trois semaines vous disiez vous-même je ne ferai aucune alliance, ni avec Emmanuel Grégoire, ni avec Rachida Dati. Vous ajoutiez même en visant Rachida Dati, moi je ne pratique pas l'intimidation, la brutalisation et la menace.
C'est pour ça.
Vous avez changé d'avis?
Non, je vais vous dire avec beaucoup de franchise les choses. J'étais candidat pour être maire de Paris. Le prochain maire de Paris, ça sera soit Emmanuel Grégoire, soit Rachida Dati. Et il appartient aux Parisiennes et aux Parisiens de décider. Le collectif qui m'accompagne, mes colistiers, mes partis, souhaitent le changement et je l'accompagne. Je permets cette fusion dans la clarté des principes contre l'extrémisme politique. Pour moi, le chemin s'arrête. Le chemin s'arrête puisque les Parisiens n'ont pas souhaité que je sois le prochain maire de Paris. Je le respecte profondément. Ça fait 18 ans que je suis engagé. Mon devoir s'arrête là. J'ai permis aux Parisiens qui veulent le changement de pouvoir réussir ce changement, aux partis colistiers qui veulent le changement de pouvoir le réussir.
Donc vous ne serez pas candidat sur cette liste de fusion avec Rachida?
Je ne suis pas candidat parce que pour moi, eh bien, ça s'arrête là. J'ai réalisé mon devoir. Et en politique, vous savez, je suis élu de Paris depuis 18 ans. Il faut savoir à un moment tourner une page. La vie est longue. Et puis notre vie va commencer pour moi.
Pierre-Yves Bournazel qui était l'invité de Léa Salamé hier soir aux 20h de France 2. Ses voix du premier tour, elles sont indispensables pour Rachida Dati qui est devancée de 13 points par le socialiste Emmanuel Grégoire arrivé en tête. Mais les électeurs de Pierre-Yves Bournazel vont-ils voter dimanche prochain pour l'ex-ministre de la Culture? Eh bien ce report de voix, il n'est pas assuré selon Bruno Cotterêts, il est politologue enseignant à Sciences Po.
Ça rebat les cartes. Hein. Quand on réduit le nombre de candidats, forcément, des électeurs vont se redistribuer. Par contre, ça n'opère pas de manière absolument mathématique. On ne peut pas prendre le score de Rachida Dati plus le score
25%.
De Pierre-Yves et que ça donne automatiquement un minimum de voix pour Rachida Dati, parce qu'il y a des électeurs de Pierre-Yves Bourdinzel qui étaient motivés pour ne pas voter Rachida Dati, qui ne vont pas se retrouver dans cette fusion. Donc ça n'est pas nécessairement quelque chose qui automatiquement rend plus facile la situation de Rachida Dati, avec un très gros écart quand même entre la liste Dati et la liste d'Emmanuel Grégoire. On sait que dans les élections, à deux tours, quand on a une grosse avance à l'issue du premier tour, on a quand même un peu un petit leadership qui se dégage. Ça donne un sentiment d'une victoire un peu plus probable. Alors ça reste quand même une élection qui est relativement concurrentielle des deux côtés.
Sachant que Pierre-Yves Bourdinzel, certains, vous le disiez, de ses électeurs vont peut-être voter pour Emmanuel Grégoire. On peut imaginer aussi que certains électeurs de Sarah Knafo se reportent sur Rachida Dati.
Voilà. Il va y avoir des mobilités d'électeurs dans tous les sens. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas simplement prendre les masses qui se sont exprimés hier, les pourcentages qui se sont exprimés hier, et automatiquement les additionner. C'est un sujet habituel des études de mobilité électorale. On sait que c'est très compliqué, en fait. Il y a effectivement des motivations qui peuvent être très différentes. Il peut y avoir des abstentionnistes de premier tour. Alors, c'est quand même pas mal corrélé. Hein. Des abstentionnistes de premier tour sont souvent des abstentionnistes de second tour quand même. Hein. Les candidats ont toujours un peu le mythe qu'ils vont aller trouver dans les abstentionnistes un réservoir de nouveaux électeurs. Mais quand même, c'est vrai qu'on connaît ces fonctionnements. Il y a des trajectoires différentes qui vont, parce que le premier tour permet de choisir véritablement, et il est difficile, en cas d'accord qui semble un petit peu contre nature, et c'est vrai que du côté de Pierre-Yves Bourdinzel, on a beaucoup dit pendant la campagne qu'il n'y aurait pas d'accord, donc des électeurs peuvent se sentir un peu floués, voire peut-être un peu trahis. C'est compliqué de leur expliquer en quelques jours qu'on avait dit pas d'accord, et puis finalement on se met d'accord vite sur un programme. Du côté de la gauche également, on dit que l'objectif c'est d'empêcher que la droite ne revienne à l'hôtel de ville. Et donc les électeurs de Sophia Chikirou, ils peuvent effectivement dire on privilégie le candidat de gauche le mieux placé.
Le chercheur au CEVIPOF, politologue, enseignant à Sciences Po, Bruno Cotrez, qui répondait aux questions de Victor Maté sur France Info. C'est l'un des enseignements du premier tour. Le Rassemblement National est parvenu à conserver la plupart des mairies qu'il détenait dès le premier tour. 24 communes comme Fréjus, Hayange, Perpignan ou Bruay-la-Buissière, c'est dans le Pas-de-Calais, 22 000 habitants. Le maire sortant, Farid Anouar, a été réélu avec plus de 80% des voix, un vrai plébiscite.
Molita, une nouvelle fois, va gagner sur l'hippodrome de...
Sur la télé du Country, c'est le nom de ce café PMU à Bruay-la-Buissière. Les courses hippiques en fond sonore. Les habitués ont les yeux rivés sur l'écran.
Henriette.
Elle est là tous les jours pour tenter sa chance.
Au tiercé, puis au petit grattage.
Est-ce que c'est pas indiscret de vous demander si vous avez voté pour le maire sortant?
Monsieur Pajot, oui, bien sûr.
Ludovic Pajot, du Rassemblement National, réélu avec 80,44% des voix.
Moi, je trouve qu'il fait beaucoup pour les jeunes. Tout ce qui est sport, tout ce qui est sorti, Office de la jeunesse, tout ça.
Cet office de la jeunesse a remplacé l'ancien centre socio-culturel, fermé après avoir perdu sa subvention municipale sous le mandat de Ludovic Pajot. Mais cela n'entache pas l'image du maire pour Henriette.
Super gentil, il est familial.
Pourquoi vous votez Rassemblement National ici?
Non, je vais vous dire, au départ, je n'étais pas pour le Rassemblement National. Moi, j'étais sur la droite plutôt. Mais le dernier maire sortant n'a pas fait beaucoup pour nous. Donc, moi, je suis rabattue sur le RN. Et je le regrette pas.
Juste derrière elle, d'autres habitués.
Ouais, ça tape des copains. On se retrouve chaque jour, le matin, de bonne heure et de bonne humeur même, on peut dire.
Et autour de cette table de parieurs, on n'en revient pas du score du maire réélu.
Vous en voyez beaucoup des maires réélus à plus de 80%.
Surtout qu'il y a eu un taux de participation, il me semble, 55% sur Bruay. C'est quand même extraordinaire.
Après, il a tout fait pour que ça se passe comme ça. Moi, je n'avais jamais vu les petites voitures de golf arriver sur les cimetières. Tout ça pour transporter les personnes âgées, pour les ramener sur les tombes. C'est lui que j'ai vu faire ce genre de choses.
Ça touche un citoyen, ça.
Vous vous appelez comment?
Francis. Ici, à Bruay, c'est un truc de mineur. C'est assez pauvre, hein, Bruay. Hein. J'ai eu un sacré changement. Il a beaucoup amélioré la ville.
Il a voté pour le maire sortant.
Et je vous assure, en toute honnêteté, j'ai rien à foutre du RN. Je juge l'homme pour ma commune, la propreté, la sécurité. C'est tout ce qui m'intéresse.
Et vous ne pouvez pas dissocier l'homme du parti?
Non.
Comment donc vous avez voté Rassemblement National quand même?
Je sais, madame. Je sais. Moi, j'y peux rien. S'il aurait été socialiste, et puis que j'aurais connu cet homme-là, j'aurais été socialiste ou autre.
Est-ce que vous êtes quand même intéressé au candidat d'en face?
Jeune.
Le jeune, comme il l'appelle, c'est Samuel Courtin, 21 ans, à la tête d'une liste citoyenne. Il a recueilli 18,56% des voix.
J'ai lu son programme.
Et
Et il est pas mal, et il méritait autant qu'un autre. Mais
alors pourquoi vous n'avez pas voté pour lui ?
Parce que, c'est vrai, bonne question. C'est vrai, c'est dommage, parce que je dis pas ça avec du recul. Mais il a été écrasé, ce pauvre homme.
Il faisait pas le poids.
C'est ça.
Cette course-là, pour Francis, était déjà jouée d'avance.
Marvin Sutton est troisième et Majestic Quick quatrième.
France Info, reportage dans le Pas-de-Calais, signé Farida Noir. Alors, il n'y aura pas de second tour dans cette commune. Elle a déjà tranché, mais les électeurs d'une commune sur 10 sont appelés de nouveau aux urnes dimanche. Nous sommes dans un instant dans une imprimerie qui fabrique en toute vitesse les nouveaux bulletins. Restez avec nous.
France Info, 5h-6h.
Bonjour Maureen Suignard.
Bonjour à tous.
À 5h20, c'est l'heure de l'info en une minute avec vous et à la une, une déclaration du patron du Parti Socialiste.
Olivier Faure dit comprendre parfaitement les choix des candidats s'alliant avec la France Insoumise. Des listes ont fusionné à Brest, Nantes, Limoges, Clermont-Toulouse ou encore Avignon. Mais il n'y a pas d'accord au niveau national pour le second tour des élections municipales dimanche prochain. Pas d'alliance de la gauche par exemple à Paris et Marseille. L'armée israélienne dit lancer une nouvelle vague de frappes sur Téhéran en Iran et Beyrouth au Liban. Ces bombardements au Liban ont fait plus d'un million de déplacés. Dans un communiqué commun, l'Allemagne, le Canada, la France, l'Italie et le Royaume-Uni demandent à Israël de ne pas mener d'offensive terrestre importante. Près de 165 millions d'euros restitués l'année dernière en France, des sommes qui dormaient sur des comptes en banque ou des assurances vie inactives. Le site internet Cyclades permet de rechercher l'existence de ces comptes inactifs pour ensuite demander la restitution des fonds. Et puis rendez-vous à 21h sur France Info ce soir pour suivre la Ligue des champions de football. Le PSG affronte Chelsea pour tenter de décrocher une place en quart de finale de la compétition. À l'aller, ils ont gagné 5-2.
France Info.
C'est le coup de feu à nouveau dans les imprimeries après le premier tour des municipales dimanche dernier. Eh bien, il faut désormais imprimer les bulletins pour les communes où il y aura un second tour dimanche prochain. Il faut aussi des tracts, des affiches, des professions de foi. Axel Canu, vous avez visité pour France Info l'imprimerie RAS. C'est à Villiers-le-Bel, au nord de Paris.
Sur la vitre de l'imprimante, 8 professions de foi sur une même feuille, pas encore découpées. Le papier est encore chaud, tout juste retiré de la presse par...
Michel, moi j'imprime sur le papier, avec la machine que vous voyez.
Le sourire aux lèvres, pourtant le début de semaine est difficile.
Je suis fatigué, c'est une charge de travail en plus.
C'est quoi vos horaires vous par exemple ?
C'est 5h, 13h, des fois je peux pousser jusqu'à 15h. Et là je suis venu spécialement de journée pour avoir les bulletins de vote qui vont sortir dans les heures qui viennent.
Comment vous le vivez ça ?
On s'adapte quoi.
Ils sont 38 dans toute l'imprimerie, une vingtaine rien que dans l'usine qui tourne jour et nuit où affiches, tracts, bulletins de vote et professions de foi du second tour des élections municipales sont partout, découpés, alignés et expédiés par Fabio tout au bout de la chaîne.
Ça arrive ici et nous envoyons ça dans toute la France. C'est très dense, il faut vraiment que ça parte dans les temps et tout ça.
Vous êtes à fond là ?
À fond la caisse même.
Parce que tout devrait être livré avant demain matin ou plus tard. Pas question donc de prendre le moindre retard.
On peut envoyer des grosses palettes de 4 à 5 000 comme en prospectus. Heureusement, on a l'habitude, donc on est bien organisé et tout ça. Donc ça se passe très bien.
Les quantités dépendent des commandes des candidats. L'essentiel a été reçu dans la nuit de dimanche à lundi. Sankher Rangadamalou l'a vécu. C'est lui qui donne le feu vert pour les impressions.
On ne dort pas beaucoup. Et je suis venu samedi matin et dimanche soir, j'étais là à minuit jusqu'à 4h du matin. J'ai des fichiers qui arrivaient à 2h du matin pour l'élection au deuxième tour. C'est un peu compliqué quoi.
80 candidats au premier tour et une trentaine au second en comptant les alliances tardives. Pour autant, les élections municipales représentent un gain financier limité, observe le directeur de l'imprimerie RAS, Nicolas Derbecourt.
On a commencé en février, mais je ne bombe pas à l'année si ça fait 1% du chiffre d'affaires. C'est pas durable quoi. Je veux dire, on vit pas là sur les élections.
D'autant plus que les tirages habituels doivent continuer. Ceux du second tour des élections municipales ne représentent qu'un dixième de la production du mois de mars.
France Info reportage dans le Val d'Oise, signé Axel Canu. C'est l'heure du monde d'Élodie à 5h23. Avec une actrice ce matin.
Bonjour Anna Girardeau.
Bonjour.
Comme le dit l'adage, les chiens ne font pas des chats. Vous avez effectivement décidé d'embrasser le métier d'actrice comme vos parents, d'ailleurs Hippolyte Girardeau et Isabelle Otero, mais vous avez aussi beaucoup de vos grands-parents maternels qui, eux, étaient peintres dans l'envie de créer votre propre toile et votre propre tableau. Vous avez démarré au théâtre à New York, où vous avez suivi effectivement des cours avant d'être repéré dans le film Simon Werner a disparu de Fabrice Gobert. Et ensuite, dans la série du même réalisateur Les Revenants, aujourd'hui vous êtes à l'affiche du film La Guerre des Prix d'Anthony Deschaux. Vous jouez le rôle d'Audrey, elle est chef de rayon bio dans un hypermarché de province, puis embauchée à la centrale d'achat de son enseigne, où elle va découvrir un monde sans foi ni loi. Elle essaie de préserver au maximum celles et ceux qui tentent de survivre en cultivant la terre et en élevant des animaux, en produisant du lait. Le titre en dit long, Anna Girardeau, sur ce qui se passe en dehors des rayons que nous arpentons dans nos grands de surface ou magasins que nous fréquentons. Et quand on regarde de plus près davantage ce mot, guerre, on se rend compte qu'on ne se bat pas assez, justement, pour détruire ce mot, alors qu'on fait partie, finalement, du jeu qui se joue en dehors des rayons.
Quelque part, on est responsable. Le film parle de ça, de toute façon, parce que c'est un film qui parle surtout d'un système qu'on a accepté, et un système qui n'est pas là, en tout cas, pour bien veiller à la valorisation des agriculteurs, qui sont ceux qui nous nourrissent et qui tentent de le faire bien. C'est ce que j'ai découvert aussi en découvrant le scénario d'Anthony, qui m'a ouvert un peu les yeux sur un système que j'imaginais, quelque part, mais auquel je n'avais jamais été confrontée. Que le milieu agricole est un milieu extrêmement difficile, mais qui ne s'arrête jamais. Quelque chose que je n'avais même pas réussi à concevoir, moi qui ai toujours été élevée avec la semaine, qui arrive avec le week-end, qui arrive avec des vacances. Et donc c'est un travail de longue haleine. Et donc de voir que de l'autre côté, là où on est censé justement valoriser ce travail, bah en fait, on l'écrase. Il y a quelque chose d'extrêmement injuste, mais que je ne connaissais pas et que Anthony a pas romantisé, mais il nous ouvre les portes à travers du cinéma d'un monde qu'on ne connaît pas.
Il y a un chiffre qui est sorti en décembre dernier. 300 agriculteurs se suicident par an. Quand le film se termine, on a besoin de se retrouver avec soi-même. C'est là où on voit la puissance d'un film. Vous l'avez compris, ça ? Ce film allait avoir un impact.
Ça nous a tous marqués. Je comprends qu'on ait besoin de moments. Et je le comprends d'autant plus que je traverse la France depuis maintenant 3 semaines avec Anthony Deschaux pour aller à la rencontre des spectateurs et leur montrer les films en avant-première. Et notamment dans des régions comme la Bretagne, donc énormément d'agriculteurs, de familles d'agriculteurs ou des spectateurs qui eux-mêmes ont dans leur entourage des gens qui sont touchés par ça ou qui le font. Et nous, on arrive à la fin du film et puis on applaudit, on laisse pas le générique et puis on est là, on sort d'un dîner avec l'exploitant et puis on est content de vendre le film. Et en fait, je réalise qu'il faut 10 minutes aux spectateurs aussi pour redescendre un peu de cette histoire. Et c'est d'autant plus touchant tout d'un coup quand un film a cette aura qui arrive à toucher vraiment concrètement les gens. Et après, ce qu'ils ont envie de dire justement à partir du film, ce qu'ils ont vu, des détails. Il y a des détails entre Olivier Gourmet et un petit garçon, un regard qui a touché énormément de spectateurs. Et c'est une petite chose, ça a beaucoup touché Anthony Deschaux, le réalisateur, parce que c'est quelque chose, lui, qui l'a touché, mais qui s'est dit c'est tellement petit, qui va le voir.
Depuis que vous avez démarré dans ce métier d'actrice, vous avez toujours choisi quand même des films qui vous ressemblaient. D'ailleurs, là, ça devient pas un acte politique, mais ça devient un acte d'engagement que de choisir un film qui raconte une histoire et qui représente celles et ceux qui ne peuvent pas élever leur voix. Est-ce que c'est comme ça que vous construisez votre carrière, Anna Girardeau ?
Non, c'est pas comme ça que je construis ma carrière. Je suis très heureuse que ça puisse aboutir à ça, si c'est le cas. J'ai toujours eu velléité déjà à avoir des personnages qui ne se ressemblent pas. Et c'est ça la joie de l'acteur. J'ai depuis 5 ans écrit, j'ai réalisé, j'ai ouvert une boîte de production et je pense que d'être beaucoup plus curieux des autres et plus curieux de leur parcours m'a permis de me libérer et d'aller faire des choses plus courageuses, plus combattantes, plus militantes, plus engagées.
C'est peut-être le rôle de maman aussi. Hein.
Je pense que c'est le rôle de maman qui incite et qui change beaucoup les choses. J'avais fait un projet il y a 4-5 ans. Avec 13 comédiennes, on était là le matin à 5h du matin au maquillage. Et elles sont toutes mamans. Et je me suis dit, en fait, on peut faire ça, on peut être actrice et mère et être forte. Et ça m'a beaucoup aidée ensuite. Et c'est vrai que ça m'a donné de la force parce que ça m'a donné de la responsabilité.
Ce qu'on comprend à travers ce film, c'est à quel point les installations sont très solides. Elles nécessitent en permanence, pour rester dans la course, d'injecter davantage d'argent. C'est aussi comme ça que se referme le film avec cette phrase qui fait froid dans le dos à la fin. C'est toujours une question d'argent. Et en fait, Anna Girardeau, non, ça peut par moment être autre chose qu'une histoire d'argent.
Il faudrait que ce ne soit pas une question d'argent.
Merci beaucoup, Anna Girardot, d'être passée dans le Monde d'Élodie sur France Info. Le film La Guerre des Prix vient de sortir. Il est un bel éclairage sur le monde impitoyable du commerce, sur celles et ceux qui se battent et débattent d'ailleurs chaque jour pour mieux nous nourrir les agriculteurs. Merci beaucoup.
Merci, Élodie.
Et merci à vous, Élodie Suigon. On vous réécoute sur franceinfo.fr. La météo.
France Info Météo, avec CIC, la facturation électronique arrive. Accompagner les entreprises dans leur transition, c'est ça construire pour que le monde bouge. Plus d'infos en agence CIC sur cic.fr.
Alors Christine Peña, vous ne donnez pas toujours de bonnes nouvelles, mais là,
bah oui.
C'est parti pour une série de journées ensoleillées et douces.
Et douces, effectivement, plus en plus douces, oui, le beau temps s'impose un petit peu partout. Alors, c'est vrai qu'on a des brouillards, mais ça va se lever. Une fois dissipé, le ciel sera très souvent tout bleu. Il n'y a que près des frontières du Nord, c'est vrai, qu'on trouve ce matin un amoncellement de nuages qui finiront par se morceler dans l'après-midi. C'est vraiment entre Strasbourg, Nancy, les Ardennes. Voilà, c'est tout. Sinon, partout ailleurs, c'est vraiment du grand beau temps avec des températures en hausse. Alors, sous les nuages là qui se morcellent, du côté de Strasbourg et de Nancy, ça va plafonner à 14 degrés. Mais il est prévu quand même 17 à Cherbourg, 17 au Havre, à Rennes, à Paris, à Grenoble, à Clermont-Ferrand et Montélimar. Jusqu'à 19 à Marseille, Nice et Bastia. 20 degrés à Bordeaux comme à Montpellier. 23 du côté du Pays Basque à Bayonne. Et puis pour la suite, parce qu'on est impatient quand même, le beau temps se maintient à peu près partout, sauf, c'est vrai, pour la Méditerranée où on a un peu d'instabilité qui viendra se caler autour de la région PACA, Languedoc-Roussillon, la Corse, avec le passage de quelques averses pour demain. Ce sera très atténué jeudi. Vendredi, très belle journée où on va vraiment s'ennuyer parce que j'aurai rien à dire. En revanche, pour le week-end prochain... je pense que je vais poser un RTT. Pour le week-end prochain, on parlera surtout de la chute impressionnante des températures. Ça y est, le froid revient et un peu d'instabilité, c'est vrai, sur la partie sud du pays.
Et on suivra tout cela avec vous, Christine Peña. Enfin, si vous ne prenez pas de...
Non, j'écouterai la radio vendredi, je pense.
Très bien, merci beaucoup. Au programme de France Info, dans la prochaine demi-heure, les délais d'attente qui augmentent encore pour avoir un rendez-vous chez un médecin. Selon un tout dernier baromètre que France Info vous dévoile ce matin, on va en parler. Et puis évidemment, les municipales et les toutes dernières tractations pour le second tour de dimanche. À la une d'un nouveau journal à 5h30. Bienvenue à tous.
France Info.
Des tractations qui ont mené à des alliances déjà pour le second tour, surtout à gauche. Les socialistes, par exemple, s'allient aux insoumis à Brest, à Limoges, à Clermont-Ferrand, à Toulouse. Et puis à Lille, le successeur socialiste de Martine Aubry lui fera 100 LFI. Arnaud Deslandes est arrivé en tête du premier tour de justesse. Et il va donc s'allier aux écologistes, les troisièmes de ce premier tour, et qui étaient jusqu'à maintenant dans l'opposition, Mathieu Bonnour.
Un peu déçu par le score du maire socialiste Arnaud Deslandes, ce soutien de la liste, Gabriel, découvre la fusion avec les écologistes et s'en réjouit.
Je suis très content. Donc il faut ce mélange agréable entre les écolos et Deslandes, ça sera très bien. C'était pas gagné. Hein. S'il n'y avait pas eu l'alliance avec les écolos, je suis pas certain que ça marche. Bon, je suis plus rassuré ce soir.
Les négociations ont duré plusieurs heures. Deux équipes de la tête de liste écologiste se sont installées dans un restaurant pour plancher toute la nuit et une bonne partie de la journée avec insoumis et socialistes.
Un accord qui, je crois, correspond à l'attente que de nombreux Lillois avaient exprimée au cours des dernières semaines.
Les deux candidats se retrouvent dans cette même salle pour annoncer leur fusion. Arnaud Deslandes pourrait donc sauver son siège de maire.
Certes, il y a eu besoin aussi d'une... l'explication au terme d'un mandat où nous avons siégé dans la majorité, eux dans l'opposition, et de fixer les règles de ce nouveau départ.
Son nouvel allié, l'écologiste Stéphane Bally, insiste, ce sera une co-gestion de la ville.
Arnaud Deslandes n'est pas Martine Aubry, et donc on a un pacte de gouvernance avec des programmes qui étaient proches mais qui méritaient des clarifications.
Là où les discussions pour une alliance avaient échoué en 2020 avec l'ancienne maire, cette fois c'est une réussite. Un proche de ces nouvelles négociations nous détaille surtout le manque de confiance envers les insoumis qui a pesé dans la balance.
France Info, reportage à Lille, signé Mathieu Bonnour. Et puis à droite, il y a aussi des fusions. Pierre-Yves Bournazel, soutenu par Horizon et Renaissance au premier tour à Paris, arrivé quatrième, a annoncé hier soir fusionner sa liste avec celle de Rachida Dati, qui est arrivée, elle, en deuxième position. Mais il ne fera pas campagne, il annonce son retrait de la vie politique. Pour la troisième fois, Nicolas Zepeda est devant la justice française. Le procès du ressortissant chilien s'ouvre aujourd'hui. Il est accusé d'avoir assassiné son ex-petite amie japonaise, Narumi Kurosaki. C'était à Besançon. Briançon en 2016. Il a déjà été condamné en première instance et en appel, mais la Cour de cassation a ordonné un nouveau procès pour vice de procédure. De nouvelles explosions entendues à Dubaï après une alerte aux missiles. Un bateau tanker a aussi été touché cette nuit dans le golfe d'Oman. Aucun signe de détente au Moyen-Orient depuis le déclenchement de la guerre en Iran par Donald Trump et par Israël. Le président américain continue d'ailleurs à chercher des alliés pour l'aider à sécuriser la circulation des bateaux dans la région. Son administration espère mettre sur pied une coalition cette semaine, mais beaucoup de pays se montrent hésitants, comme la France, et ça agace beaucoup le président américain, Franck Madvon.
Donald Trump l'a dit à plusieurs reprises hier. Certains pays m'ont grandement déçu. Première cible, le Royaume-Uni. La Rolls-Royce des alliés, les plus vieux, ils ont toujours été là. Eh bien, le Premier ministre, un type bien, m'a dit « faut que je demande à mon équipe ». Mais tu es le Premier ministre, tu peux prendre une décision. Keir Starmer appréciera. L'Allemagne, le Japon ou la Corée du Sud sont aussi montrés du doigt pour leur manque d'entrain à aider Washington à Hormuz, des pays où les États-Unis comptent des milliers de soldats. On défend tous ces pays. Et on leur dit, ce serait possible d'avoir des détecteurs de mines ? Eh bien, est-ce qu'on pourrait ne pas être impliqué ? Donald Trump en conclut que ses alliés ne sont pas fiables, qu'ils ne volent pas au secours des États-Unis malgré les garanties de sécurité offertes depuis des décennies. Il oublie de mentionner qu'il n'a consulté personne avant de déclencher la guerre contre l'Iran. Quid de la France et d'Emmanuel Macron ? Je lui ai parlé, dit Trump. Sur une échelle de 1 à 10, il est à 8. Ce n'est pas parfait, mais c'est la France. Donald Trump compte malgré tout sur les Français, puis il ajoute une phrase qui contredit toute sa démonstration. De toute façon, on n'a besoin de personne.
Franck Madvon à Washington pour France Info. Et puis, il n'y a jamais eu autant de restaurants étoilés en France. Le guide Michelin a dévoilé hier son palmarès et une soixantaine de restaurants gagnent un macaron cette année. Un seul décroche le Graal, sa troisième étoile. Ce sont les Morénières en Savoie, une auberge à Jonjieux où officie le chef Michael Arnoux. Il est 5h35 sur France Info.
France Info, 5h-6h, William Gecosta.
18h ce soir, voilà le dernier délai pour déposer les listes du second tour des municipales. Et une question se pose aujourd'hui, évidemment cruciale. Aurélie Herbemont, service politique de France Info, c'est la question des fusions de listes à gauche, notamment où certains candidats ont tranché pour la fusion, c'est non.
Effectivement, à Paris, Emmanuel Grégoire, largement en tête du premier tour, a dit non à la main tendue de l'insoumise Sophia Chikirou. Le PS et LFI ont donc déposé chacun leur liste pour le second tour. Emmanuel Grégoire espère l'emporter sans LFI. Même chose à Marseille. Le sortant, Benoît Payan, refuse la fusion avec la liste de Sébastien Delogu. Pour couper court à toute pression, Benoît Payan a même déposé sa liste pour le second tour à la préfecture. Comme ça, le dossier est clos. Il se présente en seul rempart contre le Rassemblement national. Pas de fusion non plus à Bordeaux entre l'écologiste sortant Pierre Urmic et la France insoumise. L'écologiste légèrement en tête du premier tour veut tenter de garder Bordeaux sans renfort LFI.
Mais Aurélie, il y a tout de même des villes où la gauche tout entière va se rassembler.
Oui, le patron du Parti socialiste a beau avoir dit « pas d'accord national avec LFI », ça laisse une marge de manœuvre locale. À Toulouse, par exemple, les socialistes vont rejoindre la liste de l'insoumis François Picmal, une fusion pour tenter de déloger le maire sortant de droite Jean-Luc Moudenc. Même la numéro 2 du PS, Johanna Roland, maire sortante à Nantes, annonce la fusion avec LFI car elle est talonnée par le candidat de la droite et du centre. À Limoges aussi, insoumis et socialistes font liste commune. Le maire sortant de Brest, en difficulté, scelle également un accord de second tour avec LFI. Clermont, Avignon verront aussi des listes communes PS-LFI.
Et puis il y a aussi des alliances entre la France insoumise et les écologistes.
Oui, à part à Bordeaux, les Verts fusionnent sans problème avec les Insoumis. C'est le cas à Lyon, où le maire sortant Grégory Doucet va faire liste unique avec les Insoumis, histoire de barrer la route à Jean-Michel Aulas. À Besançon, la maire sortante écolo Anne Vigneault est largement distancée par le candidat LR, donc elle n'a pas hésité longtemps avant d'annoncer la fusion avec les Insoumis. Principe de réalité oblige pour ces candidats sans alliance, difficile de viser la victoire dans leur commune, n'en déplaise aux dirigeant du Parti Socialiste très sévère avec Jean-Luc Mélenchon.
Alors Aurélie, on a beaucoup évoqué la gauche, mais à droite, est-ce qu'il y a aussi des alliances ?
Alors à Paris, la fusion est actée entre Rachida Dati et Pierre-Yves Bournazel. Fusion entre la candidate LR, largement distancée par le PS au premier tour, et le candidat Horizon, soutenu par Renaissance. En revanche, Rachida Dati n'a pas donné suite aux appels à l'union des droites de Sarah Knafo, la candidate zémouriste qualifiée pour le second tour sur le fil. De toute façon, Rachida Dati ne peut pas jouer sur les deux tableaux, Bournazel d'un côté, Knafo de l'autre. C'était une condition de Pierre-Yves Bournazel. Du côté de Bordeaux, pas de fusion en vue entre l'ancien ministre macroniste Thomas Cazenave, qui a appelé à ce stade en vain l'économiste Philippe de Sertine à le rejoindre. À Nîmes, en revanche, ça fusionne entre les deux anciens adjoints du maire LR, arrivés respectivement 3e et 4e. Ils font finalement un accord de second tour pour essayer de garder Nîmes à droite, alors que le RN et le PC sont arrivés devant.
Merci beaucoup Aurélie Herbemont du service politique de France Info. Alors, on l'entend, il y a des accords, des désistements, des fusions. Il y a eu aussi de l'abstention lors de ce premier tour. Alors, pour cet entre-deux-tours, que faut-il retenir? Voilà l'analyse de Dorian Dreuil. Il est politologue, expert à la Fondation Jean Jaurès.
Ce que je retiendrai, c'est pas seulement le résultat politique, c'est pas seulement les enjeux électoraux, c'est peut-être un enseignement plus démocratique. Vous parliez de la participation, on voit une abstention qui progresse, qui ne cesse de gagner du terrain, et donc l'enseignement majeur, il est
participation autour de 57% pour
voilà,
ce premier tour.
Voilà, si on met de côté le scrutin de 2020 qui s'était tenu dans des conditions sanitaires particulières, on l'a beaucoup dû et qu'on le compare avec les précédents, on est sur une très faible participation et c'est là peut-être l'enseignement majeur, c'est de ne
ça
pas faire
ça vous inquiète
fi.
Parce que justement on dit souvent que l'élection municipale, le maire, ça intéresse tous nos concitoyens, donc c'est une marque d'inquiétude pour
vous.
Il
y a deux inquiétudes à avoir. La première, c'est qu'on parle assez peu finalement, et on entend assez peu dans les discours politiques et les discours d'estrade depuis hier soir, cette question justement de l'abstention, comme si on n'entendait pas, on n'avait pas écouté le silence des urnes et ce qu'il voulait dire. Et la deuxième inquiétude, c'est qu'effectivement le scrutin municipal est celui de l'élu préféré des Français, l'élu de proximité. C'est celui, le maire, les conseils municipaux, qui était encore épargné par ce que je qualifie, moi, de démo-anxiété, c'est-à-dire de défiance, de méfiance vis-à-vis des institutions et vis-à-vis du personnel politique. L'élu de proximité, cette démocratie de proximité, était encore épargné par ça. Mmh. Et on peut se demander si finalement ce phénomène d'abstention n'est pas aussi le signe, bien, l'ultime signe de cette fatigue démocratique qui gagne l'ensemble du pays et l'ensemble de nos institutions, même celles qui, a priori, changent la vie au quotidien.
Alors, c'est un scrutin local, mais avec une portée forcément nationale. Il y a pour vous, au soir du premier tour, parce que ça changera peut-être dimanche prochain, mais il y a pour vous des gagnants et des perdants?
Alors, c'est la particularité de ces 35 000 élections, c'est que chacun, de par la fragmentation des résultats, chacun peut y voir quelques victoires, ou en tout cas peut annoncer ne pas tout avoir perdu. Mais là, ce qui va être intéressant, c'est ça s'écrit un peu sous nos yeux, heure par heure, c'est que ces élections municipales, étant donné que c'est le dernier scrutin avant l'élection présidentielle, il faut remonter d'ailleurs à 2001 pour avoir ce calendrier électoral-là, finalement, le véritable laboratoire, c'est celui des alliances possibles ou impossibles dans les espaces politiques, dans l'espace politique des gauches et dans l'espace politique des droites. Et c'est ça qui est intéressant à observer à l'échelle locale, à observer d'autant plus intuitivement que beaucoup ont fait de ces élections un enjeu de tremplin ou de pré-premier tour de l'élection présidentielle.
À gauche, on voit, parce que ces alliances, on en parle beaucoup plus à gauche qu'à droite. Est-ce que pour vous, le rapport de force a changé à gauche? Qui mène qui, en fait?
C'est difficile d'en tirer un trait. Une tendance générale dans la mesure où les alliances qui vont se constituer peuvent ne pas toujours emballer le scrutin ou renverser des tendances. Parce que dans ce type d'élection, et d'ailleurs dans n'importe quelle élection, et c'est vrai pour la politique en général, le résultat d'un scrutin ne rythme pas avec de l'arithmétique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas additionner des pourcentages de voix de premier tour sur un second tour. C'est d'autant plus vrai, c'est le cas en général, mais c'est d'autant plus vrai aujourd'hui, quand on voit les volatilités qui existent entre les électorats et parfois une certaine polarisation entre des électorats au sein même d'un espace politique. Le report de voix n'est pas automatique.
Ça veut dire que finalement, un accord de liste, il n'est pas sûr que les électeurs suivent.
Il n'est pas sûr que les électeurs suivent aussi parce que on voit bien que les les partis politiques, en tout cas les listes à l'échelle locale, ne suivent pas elles-mêmes les communiqués des appareils nationaux et que les consignes de vote sont de moins en moins suivies par les électeurs.
Il y a quand même, on a le sentiment qu'LFI a tiré son épingle du jeu. Jusqu'à présent, les municipales n'étaient pas une priorité pour le parti de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'on peut parler tout de même de percée du côté des Insoumis ?
Oui, dans la mesure où s'il faut trouver des dynamiques de nouveaux élus qui vont rentrer dans les conseils municipaux, elles se situent du côté du Rassemblement National et du côté de la France Insoumise. Ce qui, d'ailleurs, pour ces partis-là, est aussi intéressant pour le coup d'après. Et le coup d'après, ce n'est pas forcément la composition du conseil municipal, c'est aussi d'autres élections qui auront des conséquences de par ces résultats. C'est notamment le cas des sénatoriales, puisque les conseils municipaux font partie des grands électeurs qui vont participer au renouvellement du Sénat en 2027. Et donc, il y a comme ça, il y aura plusieurs ricochets électoraux et politiques des résultats de dimanche prochain.
Le politologue Dorian Dreuil, expert associé à la Fondation Jean Jaurès et directeur d'études à l'Institut Bonafide, qui répondait aux questions France Info de Renaud Blanc. Après le décryptage, repartons sur le terrain, comme les candidats qualifiés pour le second tour et qui n'ont plus que quelques jours pour tenter de s'imposer. À Toulon, notamment dans le Var, Laure Lavalette du RN, 42% au premier tour, veut reconquérir la ville, déjà dirigée par le FN dans les années 90, et elle affrontera, lors de ce second tour, la maire sortante d'Hiver Droite qui bénéficie déjà du soutien du candidat LR, lui arrivé troisième. Alors pour s'imposer, Pierrick Bonneau, eh bien la tête de liste du RN doit aller chercher les voix les unes après les autres.
Laure Lavalette a repris la campagne au pas de charge hier dans les rues de Toulon.
Mon petit tract.
Opération tractage au Pont du Lasse, un quartier populaire en bordure du centre-ville. L'accueil est chaleureux. Véronique prend un tract. Elle a voté LR au premier tour.
Je vais voter pour vous, deuxième.
Voilà, c'est exactement ce qu'on veut entendre, parce que si tout le monde fait ça, on gagne. Hein.
Une bise, un selfie, la candidate du RN reprend son chemin.
Factuellement, il nous manque un peu d'électeurs. On a fait 24 000 voix, alors qu'aux législatives, on avait totalisé 30 000 voix. Donc on sait que cette réserve de voix, elle est là.
Allez chercher les voix une par une pour tenter de faire le plein dimanche, car face à elle, la maire sortante José Massy, étiquetée d'Hiver Droite, a reçu le soutien du sénateur LR Michel Bonus, troisième homme du premier tour qui se désiste. Sophie est médiatrice culturelle, elle a voté à gauche au premier tour et votera José Massy au second.
Ça me rassure d'imaginer qu'effectivement il y a des gens qui vont faire front. Et je veux pas du RN.
La maire sortante fait une campagne beaucoup plus discrète que sa concurrente, qu'elle attaque depuis la salle du conseil de l'hôtel de ville.
Je le dis avec fermeté, Toulon ne se gouverne pas sur les réseaux sociaux. Toulon ne se gouverne pas depuis Paris.
José Massy reprend ainsi un argument souvent utilisé contre les candidats du RN, accusés de consacrer trop de temps à leur parti, loin de leur commune.
Un reportage à Toulon signé Pierrick Bonneau. À suivre sur France Info, Donald Trump agacé que ses alliés refusent de l'aider pour sécuriser le détroit d'Ormuz après avoir attaqué l'Iran. Décryptage et analyse dans un instant.
France Info. 5h-6h.
6h moins le quart, l'heure de l'info en une minute avec Maureen Suignard et à la une, le président israélien qui salue une évolution très positive.
Réaction à l'offre de médiation française pour éviter une guerre encore plus destructrice au Liban. Cette nuit, l'armée israélienne a poursuivi ses opérations militaires dans le pays, également en Iran. Téhéran riposte des explosions entendues cette nuit à Dubaï et Doha. Il l'officialise, Pierre-Yves Bournazel, le candidat centriste pour la mairie de Paris, retire sa liste pour le second tour des élections municipal dimanche prochain. Il s'allie avec la candidate Les Républicains Rachida Dati, arrivée loin derrière le socialiste Emmanuel Grégoire au premier tour. Un troisième procès pour le Chilien Nicolas Zepeda qui débute à Lyon tout à l'heure. Il a été condamné deux fois à 28 ans de prison pour le meurtre de son ancienne petite amie japonaise Narumi Kurosaki. Sa deuxième condamnation avait été annulée à cause d'un vice de procédure. Et puis certains chefs travaillent toute leur vie pour cela décrocher des étoiles. Le guide Michelin a dévoilé son palmarès des meilleurs restaurants du pays hier soir. 62 établissements distingués, dont 7 établissements 2 étoiles et un restaurant 3 étoiles. Il s'agit du restaurant Les Morénières de Mickaël Arnoux en Savoie.
France Info.
Jusqu'à maintenant, son appel reste sans réponse. Donald Trump qui continue à chercher des alliés pour aider son armée à sécuriser le détroit d'Ormuz, ce bras de mer ultra stratégique dans le Golfe qui est contrôlé par l'Iran et où le pétrole et le gaz ne passent quasiment plus. Pour l'instant, aucun des pays contactés par Donald Trump ne veut s'engager, dont la France, et ça ne plaît pas du tout au président américain qui a même menacé à demi-mot l'OTAN. Alors faut-il y voir un aveu de faiblesse ? Voilà l'analyse de Nicolas Tenzer, enseignant à Sciences Po, spécialiste des des questions internationales.
Un certain nombre d'événements ne se sont pas véritablement déroulés comme les planificateurs militaires et politiques l'avaient prévu. C'est pas uniquement d'ailleurs en ce qui concerne le détroit d'Ormuz, mais on a vu notamment les Iraniens répliquer par des frappes sur des installations militaires, des dépôts pétroliers sur un certain nombre de pays de la région, les pays du Golfe notamment. On a vu aussi que concrètement la question des drones et l'efficacité des drones iraniens n'avait pas été anticipée. Et puis là aussi, Trump s'était dit sans doute que lors de la guerre des 12 jours de juin 2025, il n'y avait pas eu de blocage du détroit d'Ormuz et que ce serait pareil cette fois-ci. Donc il s'est trompé sur tout et il s'aperçoit que les forces américaines, qui sont évidemment plus puissantes que l'armée iranienne, ne sont pas véritablement adaptées à ce genre de combat.
Est-ce que pour la première fois depuis qu'il est redevenu président des États-Unis, Paris et Londres sont en quelque part en position de force par rapport à lui et pour négocier je ne sais pas quoi, mais plutôt en position de force?
Sont en position de force parce que tout simplement ils ont le pouvoir de dire non. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans la même situation de celle du 11 septembre 2001 où là, concrètement, c'est d'ailleurs la seule fois dans l'histoire, les États-Unis ont invoqué l'article 5 du traité de l'OTAN parce que les États-Unis étaient attaqués. Là, les États-Unis ne sont pas attaqués, ce sont eux qui ont attaqué et ils ont déclaré la guerre à l'Iran avec Israël sans consulter le moins du monde les alliés. Donc, évidemment, ses alliés ne considèrent pas qu'ils sont engagés dans cette guerre. En plus, il est évident que ce n'est pas du tout la mission de l'OTAN. Donc, eux, ils peuvent dire, écoutez, non, nous ne faisons que ce que nous voulons faire, c'est-à-dire comme la France, nous avons une attitude défensive lorsqu'un certain nombre de pays avec lesquels nous avons des accords ont été attaqués, mais nous n'irons plus loin, nous ne voulons pas être engagés dans la guerre. Et tant que la guerre dure, s'engager aujourd'hui à défendre le détroit d'Ormuz, c'est évidemment quelque chose de dangereux. Qui n'est pas nécessairement acceptable, pas seulement par la France ou l'Allemagne, hein, mais aussi par le Royaume-Uni, et on l'a vu par le Japon, l'Australie, etc.
Mais quand on entend Donald Trump qui dit « bah ouais, j'ai parlé avec Macron, il est d'un enthousiasme de 8 sur 10 », bon, on sent bien que c'est quand même la position de la France, elle est assez claire, vous l'avez rappelé, il y a quand même très très peu de chances pour qu'on donne raison à Donald Trump.
Oui, absolument. Il faudra attendre, évidemment, je dirais, de nouveau les précisions de l'Élysée et puis des ministères des armées et des affaires étrangères. Mais évidemment, ce n'est pas parce que Trump interprète d'une certaine manière les paroles d'Emmanuel Macron que son interprétation est la bonne.
Nicolas Tenzer, on parle beaucoup du détroit d'Ormuz. Hein. Tant que ce détroit ne sera pas sécurisé, la guerre continuera. C'est le point le plus stratégique de ce conflit?
Écoutez, c'est un des points qui est évidemment stratégique dans la mesure où vous avez 20% du trafic pétrolier qui passe par là et qu'un certain nombre de pays sont encore plus dépendants que 20%, notamment plusieurs pays asiatiques du pétrole, pas seulement iranien puisque ça ne concerne que la Chine, qui passe par ce détroit. Donc c'est un élément stratégique. Mais derrière, vous avez, je crois, aussi un autre paradoxe. Vous dites, est-ce que la guerre va s'arrêter ou ne pas s'arrêter? C'est que concrètement, aujourd'hui, soit vous avez une guerre dure et il y a peut-être une chance que les États-Unis parviennent à leurs objectifs, alors pas véritablement fixés, mais ceux dont on parle, c'est-à-dire la fin du programme d'enrichissement de l'uranium, oui. la destruction de l'ensemble des missiles, notamment balistiques, la fin également du financement par l'Iran d'un certain nombre de milices diverses, que ce soit le Hezbollah, les Houthous, un certain nombre de groupes chiites également en Irak. Mais ça, il faut une guerre longue. Mais là, on voit perçoit que plus la guerre est longue, plus évidemment les conséquences sont dures, notamment avec la fermeture du détroit d'Ormuz. Et on voit Trump effectivement qui aujourd'hui essaye de débloquer la situation, a de plus en plus de mal et vraisemblablement il s'acheminera vers une guerre courte en disant j'ai gagné, j'ai réussi, mais en fait il n'aura absolument pas réussi à atteindre ses objectifs.
Le spécialiste des questions internationales, enseignant à Sciences Po, Nicolas Tenzer sur France Info avec Renaud Blanc. Il faut 2 mois en moyenne pour voir un ophtalmo, un ORL, un gynéco ou un psychiatre. C'est même 3 mois pour un cardiologue et 4 mois et demi pour un dermato. France Info vous révèle ce matin avec ici les résultats annuels du baromètre de l'accès aux soins Ipsos BVA pour la Fédération Hospitalière de France. Et l'enseignement, c'est que la situation se dégrade encore. Par rapport à 2019, Solène Lehen, il faut attendre 2 fois plus longtemps pour voir un cardiologue. Exemple à Paris.
À 68 ans, le docteur Pierre Sedbon continue de consulter, parfois même le dimanche matin. Son agenda déborde.
Il est plein jusqu'à fin mi-juillet, je crois. On prend de moins en moins de nouveaux patients parce qu'on n'a plus la place. Ceux qui acceptent encore des patients, comme moi, j'ai des critères de choix que je n'aime pas. Mais c'est comme ça. Je ne peux plus prendre des gens de mon âge. Je prends des gens jeunes qui, potentiellement, statistiquement, ont moins de probabilités d'avoir besoin de me voir souvent.
Un nouveau patient qui arrive là, ça vient de sonner.
Ça n'arrête pas, toutes les demi-heures il y a quelqu'un.
C'est Carole qui entre dans la salle d'attente.
La première fois que j'ai pris rendez-vous, j'ai dû attendre 4 mois, alors que j'étais déjà en état d'urgence en fait. Donc j'ai dû patienter 4 mois et effectivement attendre avec pas trop d'angoisse quand même, mais un petit peu.
Carole prend donc désormais son rendez-vous chez ce cardiologue 1 an à l'avance et bloque absolument cette date, pas question de louper le rendez-vous.
Ça devient effectivement une date incontournable.
Frédéric, elle, prend son rendez-vous chez le cardiologue 6 mois à l'avance.
J'essaie de coupler avec dermato parce que c'est vraiment très compliqué. Je suis très stressée parce que ma gynéco va prendre bientôt sa retraite et vous avez aussi le problème des généralistes parce que plus personne ne veut être médecin traitant. Donc je suis restée pendant 3 ans sans médecin traitant.
Pour le docteur Pierre Sedbon, l'accès aux soins s'est clairement détérioré ces dernières années.
Avant, c'était exceptionnel. Maintenant, il n'y a pas une journée où je n'ai pas au moins une patiente ou un patient qui a pris le train ou sa voiture pour faire des kilomètres pour venir de Normandie, de Bretagne ou d'ailleurs. J'ai vu une patiente la semaine dernière, 72 ans, elle s'est tapée 5 heures de train pour venir me voir. Les gens se déplacent, les gens sont écœurés de ne pas avoir de médecin praticien près d'eux. L'impression que l'État ne fait rien pour qu'il y ait plus de médecins, c'est lamentable. C'est aux Français de se révolter. Révolution.
L'an dernier, les autorités de santé ont proposé aux futurs médecins 200 postes en spécialité cardiologie pour 300 départs à la retraite.
Merci beaucoup Solène Lehen. Elle a été nommée 17 fois aux Oscars et n'en a jamais remporté. Maureen Suignard nous fera découvrir une compositrice un peu chat noir dans la playlist qui arrive après l'actu écho avec Emmanuel Cuny. Bonjour Emmanuel.
Bonjour à tous.
Le réveil de l'écho avec le Crédit Coopératif. Banque engagée à vos côtés pour un monde plus durable et inclusif. Crédit Coopératif, une autre banque est possible.
L'actualité économique en 3 titres. On commence avec les Européens qui jugent sévèrement la compétitivité des produits made in France.
Oui, l'Institut de Conjoncture Rexecode et Schema Business School ont sondé près de 500 acheteurs sur l'ensemble du continent. Il en ressort que les produits français présentent un rapport qualité-prix jugé médiocre, essentiellement des produits de grande consommation. La France se classe en 6e position des grandes nations exportatrices après la Chine, les États-Unis, l'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni. La place la plus basse depuis 20 ans.
Le groupe Enedis, filiale d'EDF, investit pour consolider le réseau de distribution d'électricité.
Oui, le gestionnaire de ce réseau qui est Enedis passe une commande de 2,7 milliards d'euros auprès de 24 fournisseurs de matériel. Alors des contrats qui courent sur 3 à 5 ans et qui s'inscrivent dans le cadre du plan de rénovation et d'extension des lignes basse et moyenne tension qui traversent le territoire français. Engagé en 2022, ce plan court jusqu'en 2040 et il est évalué par Enedis à un coût total de 96 milliards d'euros.
Et de belles perspectives également pour Nvidia, le géant américain des composants électroniques.
Et le numéro 1 mondial des semi-conducteurs s'attend en effet à voir la demande pour ses produits atteindre au moins 1000 milliards de dollars en 2027 et il double même ses prévisions pour cette année 2026. Ce nouveau chiffrage reflète une accélération sans précédent de la demande de calcul informatique liée à l'intelligence artificielle.
Emmanuel, on vous retrouve dans une demi-heure sur France Info pour le Brief Éco.
Le marché du crédit à la consommation est au plus haut depuis 6 ans en France. C'est ce qui ressort en tout cas d'une enquête réalisée par l'Institut de sondage CSA Research pour l'organisme de crédit Cofidis. Des chiffres en hausse d'une année sur l'autre portés essentiellement par les CSP+, les catégories socio-professionnelles supérieures.
Merci beaucoup Emmanuel Cuny. À 5h56, c'est l'heure de la playlist de Maureen Suignard et vous revenez ce matin sur la cérémonie des Oscars.
Oui, parce qu'on vous en a parlé hier matin de cette cérémonie américaine qui récompense les professionnels du cinéma et il y a bien sûr aussi un Oscar pour la meilleure chanson originale. Cette année, c'est Golden de K-pop Demon Hunters qui l'a remporté, la BO du film d'animation qui nous plonge dans l'univers de la musique coréenne. Mais cette victoire a caché une défaite, William, une énième défaite. Dear me, I know you feel like nobody understands what you're going. Vous entendez le titre Dear Me, un morceau composé par Diane Warren, la bande originale d'un documentaire consacré à la carrière de ce pilier de la musique américaine. Mais Diane Warren est repartie sans statuette. Vous allez me dire que c'est le jeu, ma pauvre Lucette, mais Diane Warren n'en était pas à son coup d'essai. Elle a même établi un record, 17 nominations sans jamais aucune victoire, du jamais vu. La première nomination remonte à 1987 pour cette musique. Nothing's Gonna Stop Us Now, interprété par le groupe Starship, a été la bande originale de la comédie romantique américaine Mannequin. Une première nomination pour Diane Warren et donc un premier échec. Et il y en a eu beaucoup d'autres. Je suis sûre que ce titre vous dit quelque chose. I Don't Want to Miss a Thing, interprété par Aerosmith pour le film Fin du Monde d'Armageddon. Le film a failli casser mon magnétoscope tellement je l'ai regardé. Mais là encore, pas d'Oscar. Mais je vous rassure, William, on peut perdre autant de fois sans pour autant avoir loupé sa vie, loin de là. En 2022, Diane Warren a tout de même reçu un Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Et de toute manière, elle considère que d'être nommée 17 fois parmi les meilleurs de la planète, c'est déjà une sacrée victoire. Et les vrais auront reconnu Can't Fight the Moonlight, la musique du film Coyote Girl, sorti il y a seulement 26 ans.
Et Maureen, vous n'êtes pas obligée de regarder les films sur magnétoscope hein, désormais. On a des technologies un peu plus avancées.
Il y a d'autres choses, du DVD par exemple.
Exactement, allez, j'appuie sur Play pour la météo.
France Info Météo, avec CIC, la facturation électronique arrive. Accompagner les entreprises dans leur transition, c'est ça construire pour que le monde bouge. Plus d'infos en agence CIC sur cic.fr.
Allez, on règle le poste à galène pour écouter la météo.
Oh, d'accord.
Christine Peignel, le soleil s'impose haut la main.
Haut la main, oui, pas haut les mains. Haut la main, effectivement, pour le soleil. On a des brouillards, hein, mais ça va se lever. Il y a quelques nuages encore qui traînent. En Allemagne, en fait, on a encore du mauvais temps. Quelques petites bruines et pluies qui traînent par là. Alors, nous avons surtout des nuages qui déborde près des frontières du Nord, mais cet après-midi, le ciel va se morceler. Ça va limiter un peu la hausse des températures là-bas. Hein. 14 degrés du côté de Strasbourg et de Nancy au meilleur moment de la journée, alors qu'il est prévu jusqu'à 17 à Cherbourg, comme à Paris, à Rennes, à Montélimar aussi, 19 à Marseille, jusqu'à 23 à Bayonne. C'est là où il fera le plus doux auprès des Pyrénées pour cet après-midi sous le soleil.
Merci exactement. Christine Peignat. Alors lui, je crois qu'il regarde ses films sur Laserdisc. C'est Jérôme Chabie. Bonjour.